par à ton nom, Saint-Esprit. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, vraiment, avant d'ouvrir la Bible ensemble, que si tu fais, tu penses faire ce que Dieu te dit, c'est extra. Refuse toute forme et toutes sortes de culpabilité. La parole suffit pour te réaligner. Et parfois, mais même toujours, c'est, la parole est une semence. Et la Bible nous dit que, et ce texte me fait tellement de bien ces derniers temps, que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. La parole est une semence et Dieu ne ment pas. Ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de toi, ce n'est pas à propos de ce que tu sais faire, de ce que tu ne sais pas faire. Si la parole a été semée et si tu as reçu la parole de Dieu, je dis bien si tu as reçu et si cet après-midi tu reçois encore la parole de Dieu, tôt ou tard, la parole va faire la différence. Et tôt ou tard, la parole fait la différence. Je bénis Dieu pour sa parole. Et ce soir, c'est à ce thème, tu enfanteras. Alors, ça fait sourire certains, d'autres qui ne veulent pas avoir d'enfants ont voulu changer le titre. Mais c'est pas grave, le titre, c'est un titre. Ce qui est important, c'est de vivre la réalité derrière. Amen. On va voir ensemble. Et lorsqu'on parle d'enfantement, lorsqu'on parle de naissance, et j'aimerais juste le situer dans ce contexte où on parle de processus, où on est dans un processus, où on a prêché sur le processus. Et je crois vraiment de tout mon cœur que tout processus a un but, c'est de donner naissance à quelque chose. Et moi, je me refuse d'écouter une série de messages si je ne donne pas naissance à quelque chose. Je me refuse d'écouter tellement de messages avec le pasteur. J'en ai tellement que j'oublie. Vous savez, on est une église à tellement de pasteurs. Le pasteur Gérard qui a prêché sur la croix. C'est tellement bon, mais qu'est-ce que ça produit? Et moi, je crois que quand Dieu parle et quand on parle de processus, à la fin, il y a quelque chose. Je dis, à la fin d'un processus, il y a quelque chose. Et Dieu veut qu'à la fin, qu'il y ait quelque chose dans ma vie. Et cette fin, bien sûr, ça dépend de notre collaboration avec le Saint-Esprit. Et si tu es là ce soir, que tu puisses tout simplement collaborer. Et mon but ce soir, c'est réellement que nous puissions arriver à ce processus-là où on donne naissance à ce que Dieu veut, qu'on enfante quelque chose et qu'on enfante en fait tout simplement le projet de Dieu pour notre vie. Et mon but, c'est tout simplement d'attaquer tout esprit de stérilité, d'avortement, de fausse couche, de mort-née. C'est très hospitalier. Mais dans la réalité spirituelle, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses parfois. Et j'ai tellement prié pour ce message, pour d'autres, mais pour celui-ci en particulier, je voyais tellement des enfants morts dans le ventre. Spirituellement, et tu pries, tu n'avances pas et ça ne produit rien. Et tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, mais il y a comme quelque chose qui est là, en vie, qui était en vie, mais c'est mort, plus d'espérance. Et peut-être tu es rentré dans ce lieu pour la première fois, il y avait tellement d'espérance dans ta vie, mais à cause des déceptions, il y a tellement de choses qui peuvent tuer un enfant. Parfois, ça peut être la déception qui a tué une parole, une promesse. Parfois, c'est une succession d'événements et tu te retrouves aujourd'hui dans ce lieu en te disant, mais on chante ça, tu es beau Seigneur. Oui Seigneur, envoie ton feu. Mais tout ça, ça demeure des chants. Et parfois, l'église vit cette réalité où on chante des choses, mais on a des enfants qui sont morts à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je prends et on prend ce temps cet après-midi pour nous encourager à croire à nouveau que Dieu peut libérer la vie et que même un enfant mort, Dieu peut le ressusciter, Dieu peut le ramener à la vie. Et je prie que pendant que je prêche, parce que sa parole elle est puissante, parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu, que la parole de Dieu puisse ressusciter en vous ce que l'ennemi a tué, que la parole de Dieu puisse ressusciter en vous ce que peut-être même des paroles ont tué, ce que des événements ont tué. Et ce n'est pas normal. J'aimerais dire que ce n'est pas normal de vivre d'espérance et de déception. Je croyais qu'enfin, mais finalement, ça ne s'est pas produit. Et tellement, c'est dur, tellement de chrétiens qui ne concrétisent pas des projets. Tellement de chrétiens qui ne vivent pas le fruit. tellement de chrétiens qui n'avancent pas. Ça va vous choquer, mais moi, j'ai fait vraiment un deal avec Dieu. Je ne veux pas prêcher un Dieu qui fait stagner. J'ai dit à Dieu, j'avais un cœur à cœur avec mon épouse, je lui disais, sans prétention, en plus en ayant connu, comme certains, plusieurs pays, plusieurs expériences, plusieurs expressions de la foi, il n'y a pas une qui est meilleure. Je disais, j'ai l'impression d'avoir goûté à tellement de choses. Mais je ne veux pas vivre ma vie chrétienne en me disant que j'ai tout goûté. C'est déjà le début de la mort. Et cet après-midi, le but, c'est qu'on puisse rêver à nouveau. Pas à la méthode, tu sais, du positif, mais juste la parole de Dieu qui vient ranimer quelque chose, qui dit non, je veux avancer, je veux produire. Rien que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Peut-être que certains, vous avez déjà parlé de nouvelles langues. Gloire à Dieu. Peut-être que certains, vous avez prophétisé. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a ressuscité des morts autour de nous? Pas encore. Et je disais à Fabien tout à l'heure, on prie tellement pour des dons. Et moi, je me suis rendu compte, cette semaine, honte à moi peut-être, cette semaine, je me suis rendu compte que je priais pour tous les dons. Bon, ceux qui ne me connaissent pas, parfois je dis don, voilà, c'est D-O-N. Hein, ne prenez pas la tête. Arrêtez d'écouter mon accent et d'analyser. Mais je me suis rendu compte que je ne priais jamais pour le don d'interpréter les nouvelles langues. Donc je prie quand même malade en langue. Mais je n'ai jamais pensé à prier pour dire, mais est-ce que je comprends un peu moi-même ce que je dis? Mais Dieu, dans sa parole, m'a dit que c'est possible. Si vous avez entendu, parce que des nouvelles personnes sont dans ce lieu, si vous avez entendu de certains qui disent, Dieu nous dit qu'il y a un miracle qui existe pour nous donner l'interprétation de ce que je viens de dire. Mais ça, c'est un plus. Peut-être que tu as tout goûté, mais tu peux prier pour ça. Peut-être que tu as amené des âmes, mais tu peux encore prier pour amener des âmes au Seigneur. La première chose que Dieu fait, vous vous souvenez, la première chose que Dieu fait, quand il crée l'homme, il fait quoi? La première chose que Dieu fait, il ne donne pas une recommandation. Ah, j'aime Dieu. La première chose qu'il fait, il bénit. Oh. La deuxième chose, enfin la première chose qu'il fait, il bénit. La première chose qu'il dit, c'est quoi? Soyez féconds. Multipliez. Wow. Le cœur de Dieu, c'est que tu sois fécond, que tu produises du fruit. Alors ne paniquez pas. J'ai une femme, vous le savez, qui ne veut pas avoir d'enfant. Donc je suis très à l'aise de parler de ça. Soyez fécond. Je crois réellement, oui, il y a cette dimension de remplir, de multiplier. Mais il y a surtout cette dimension dans nos vies d'être fécond, dans nos finances d'être fécond, dans notre travail d'être fécond, dans notre jeunesse d'être fécond, dans notre relation avec Dieu d'être fécond, d'aimer la vie chrétienne. Si vous me côtoyez, que vous trouvez la vie chrétienne ennuyeuse, faites quelque chose, chassez un démon dans ma vie, mais c'est pas normal. La vie chrétienne, c'est la vie. On doit être heureux, on doit être excité, on doit produire la vie, on doit produire la joie. Il y a des moments de souffrance, il y a des moments de douleur. Mais Dieu dit, je te bénis. Amen. Et je veux que tu sois fécond, que tu te multiplies, que tu fasses des disciples, que tu avances. Vous savez, il y a des religions, une religion particulière, on dit. En particulier, adverbe quand même. Ce n'est pas un adjectif. Sont très offensifs, ils se multiplient. Et tout à l'heure, on parlait avec une personne qui était amenée au Seigneur, qu'on a baptisé avec la famille Wilson. Et cette jeune fille me disait, mais il y avait quelqu'un de l'islam, mais qui était très, eux, ils veulent, ils sont dans un esprit de conquête. Parce qu'ils croient en leur Dieu. Et je me dis, nous, en tant que chrétiens, on s'excuse tellement d'exister. On a la vie, on ne veut pas libérer la vie. On n'avance pas et on accepte qu'on n'avance pas. Seigneur, je veux croire que tu m'as créé, il y a en moi. J'aimerais détruire ce mensonge en toi par la grâce de Dieu. Tu as en toi l'ADN de la multiplication. Tu as en toi l'ADN de porter du fruit. Tu as en en toi l'ADN de te dupliquer. Tu as en toi l'ADN de faire des disciples. Tu as en toi l'ADN de semer et de voir du fruit. Tu as en toi l'ADN de manger de ton fruit. Ésaïe 54, 1 à 3, je lis et j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Et je parle à Toulon, et je parle à l'église de France, et je parle à l'église M. Élargis l'espace de ta tente, quand déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ça, c'est Dieu qui dit, réjouis-toi, stérile. Et ça, c'est Ésaïe, combien? Et avant 54, il y a quoi? Bravo Anaïs. Ésaïe 53, c'est quoi? Jésus souffrant, la croix. Quand est-ce qu'on appelle la croix? Dimanche dernier. Il n'y a pas Ésaïe 54 sans Ésaïe 53. Et s'il y a Ésaïe 53, il y a Ésaïe 54. Si pasteur Gérard a parlé de la croix, je peux légitimement parler de l'enfantement. Parce que le fruit, le premier, l'un des fruits majeurs de la croix, c'est l'enfantement. J'ai dit que l'un des fruits majeurs de la croix, c'est l'enfantement. En fait, l'esprit de stérilité est renversé à la croix. Quand je mets ma foi et je parle à celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, j'aimerais t'encourager à donner ta vie ce soir. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la croix dit, tu vas avancer. La croix dit, tu vas avancer. La croix renverse la malédiction du fait de ne pas avancer. Et je parle aux chrétiens, de longue date ou pas, si tu as mis ta foi en Jésus, la croix nous rappelle que tu dois porter du fruit. La croix nous rappelle que Jésus est venu renverser la malédiction de la stérilité. L'enfantement, c'est le point culminant d'un processus. Quand ça commence par la conception, il y a plusieurs étapes, gestation, développement fœtal, travail, naissance. Vous avez compris, je ne vais pas parler de l'aspect médical. Mais Dieu, et tout à l'heure, on l'a dit dans la louange, et Dieu me le rappelle cette semaine, la création, et quand on sort, loue, parle des merveilles. En fait, la création nous explique le fonctionnement de Dieu. La grandeur de Dieu. Et quand on regarde toutes ces étapes, on dit, waouh, Seigneur, avec moi aussi, tu fais tellement, tu veux faire ça, et tu es en train de faire ça. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de commun, Isaac, Joseph, Samson, Samuel et Jean-Baptiste? Pardon? Leur mère était stérile. C'est bizarre quand même. Tous ces hommes qui ont marqué l'histoire biblique, on se dit que leur mère était stérile. J'aimerais t'encourager. Toi qui es peut-être en train de regarder ta vie, tu dis, mais j'ai l'impression que je ne porte pas de fruits. J'aimerais juste que tu réalises que ces femmes-là étaient loin d'imaginer qu'il y avait un combat, qu'il y avait un défi, qu'il y avait un Isaac, qu'il y avait un Joseph, qu'il y avait un Samson, un Samuel, un Jean-Baptiste. Ils avaient du mal à enfanter. Mais parce que quoi? Le diable savait qu'il y avait une grande destinée. Le diable a attaqué avec la stérilité. Et ce soir, nous sommes là juste parce que, pas parce que par la parole d'un homme, quelque chose a changé. Mais non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu vas te rendre compte en fait que ce que tu es en train de vivre, bah, tu as l'impression que ça n'avance pas. Tu as l'impression que c'est stoppé. Tu vas te rendre compte par la vérité. Oh, en fait, la maman d'Isaac a vécu ça. La maman de Joseph a vécu ça. La maman de Samuel a vécu ça. De Samson. Et même, on va en reparler, de Jean-Baptiste. Peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui est en train de germer, qui va faire la différence dans ce monde. Et je le crois de tout mon cœur. Et que c'est ça que l'ennemi est en train d'attaquer. Et vous savez, concernant Samuel, sa maman s'appelle comment déjà? Anne. Anne, et je crois que le papa Laurence en parlait dernièrement. Anne, quand elle va prier, comme il nous explique, elle va réaligner sa prière, mais elle va donner un nom particulier à Dieu. Vous savez c'est quel nom? Elle est stérile. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Moi, je vais prier le Dieu qui guérit. J'aurais même inventé un nom dans la Bible, on aurait dit le Dieu qui fait enfanter, le Dieu qui donne les enfants. Je ne sais pas comment en hébreu on aurait dit ça. Mais on aurait inventé un mot, enfin on aurait créé le mot pour dire, je prie, Yahvé qui enfante, Yahvé qui pourvoit, Yahvé. Elle a invoqué, et c'est la première mention, c'est dans ce contexte-là. Retenez votre souffle. Elle a invoqué l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, la première mention, et je vais rapide, vous savez que les premières mentions de la Bible, c'est très important. La première mention de l'Éternel des armées, c'est pas dans un contexte où ils sont en train de s'entretuer, c'est pas un contexte de guerre naturelle. La première mention de l'Éternel des armées, c'est un contexte de stérilité, parce que ça vient attaquer la promesse faite à Adam et Ève, multipliez-vous, soyez féconds. Et j'aimerais te dire, et je suis là pour t'ouvrir les yeux, que tu comprennes. Tu ne portes pas du fruit, pas juste parce que tu es mauvaise, parce que tu es méchante. Tu ne portes pas du fruit, tu n'avances pas dans la vie, parce que le diable attaque par la stérilité. Et il y a un combat spirituel. Quand il a commencé à dire l'Éternel des armées. En fait, l'Éternel des armées, ça veut dire que tu es le chef de l'armée angélique. Quelque chose s'est passé, ça a été libéré. Et là, sa situation a changé. Et on doit se battre. On doit se battre. Et j'aimerais t'encourager. Dieu mobilise son armée pour que tu enfantes. Qui le croit vraiment? Dieu mobilise son armée pour que tu enfantes. Bon, tu t'as tiré de ce passage après cette brève introduction. Luc 1, verset 31. Joyeux anniversaire, Mathieu Gatté. Il veut fêter son anniversaire vite ce soir. Je n'ai que fait l'introduction. Luc 1, 31. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est tout un programme, mais c'est ce que Jésus derrière aussi est venu faire à travers son œuvre. C'est la naissance de Jésus, mais c'est aussi ce que Jésus veut faire dans ma vie. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Et c'est tellement terrible de recevoir la première partie du message. Tu deviendras enceinte, mais jamais tu n'enfantes. Mais l'ange dit à Marie, il aurait juste pu dire tu vas enfanter. Non. Mais parce que l'ange veut voir le processus, veut mettre en lumière le processus. Il y a la conception et l'enfantement. Dis conception, enfantement. Conception, enfantement. C'est hyper, hyper important de réaliser ça. Mais rapidement, le « tu deviendras », on sait que c'est Marie, c'est une vierge. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Jean-Baptiste qui était le préparateur, je n'ai pas revenu ce message. Sa mère, c'était Élisabeth, mariée à Zacharie. Et Élisabeth était aussi stérile. Quand même, c'est pas bizarre cette histoire-là. Jésus naît d'une vierge et celui qui le précède naît d'une stérile. Je ne sais pas quelle est ta condition et j'espère que vous arrivez, je vais vous aider à faire le parallèle. La virginité nous parle de... Il n'y a rien, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. La stérilité, j'ai tellement essayé, ça ne marche pas. Ça ne change pas. Mais Jésus est venu pour que ce qui est impossible aux hommes devienne possible. Jésus est venu et l'ange va dire à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et je dis que ce soir, si tu crois, la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre pour que tu puisses commencer à enfanter, pour que tu puisses commencer à avancer, pour que tu puisses commencer à être libéré. La promesse doit être suivie d'une naissance, pas juste d'une conception. La promesse doit être suivie d'une naissance. La promesse, c'est la conception. Mais ensuite, il faut que je puisse donner naissance à ça. Je dois refuser que les promesses de Dieu, que ce que Dieu m'a dit, ça puisse mourir en moi. Seigneur, je veux donner naissance. Si j'ai reçu Jésus et que je bataille avec chose, ok, il y a un processus. Mais je dois refuser de recevoir l'évangile qui ne me transforme pas. L'évangile est appelé à transformer mon caractère. Et l'évangile est appelé à transformer mon environnement. L'évangile est appelé à me donner un autre style de vie. L'évangile est appelé à transformer mon mariage. L'évangile est appelé à transformer là où je marche. L'évangile est appelé à transformer mon environnement de travail. L'évangile, c'est pratique. Conception, naissance. Seigneur, je veux enfanter. Et je refuse la stérilité. Et pour certains peut-être qu'il y a tellement de changements et ça c'est délicat parce que il n'y a aucune naissance. J'en parle comme un expert, vous avez vu. Depuis tout à l'heure je me dis, il y a des femmes qui disent, mais le gars, les culottes, c'est quoi? Mais croyez-moi sur parole, il n'y a aucune naissance sans changement dans le corps. Il n'y a aucune naissance sans changement du corps. Élargissement du bassin. Assouplissement, j'ai des ligaments. Il y a tellement de choses qui bougent. Bref, ça crée un inconfort. Mais quelque chose se passe. Le problème, c'est que plusieurs dans ce lieu, vous êtes en train d'être préparés à l'accouchement. Mais vous ne reconnaissez pas les signes de l'accouchement, mais vous focalisez sur l'inconfort. Ne plus reconnaître son corps fait partie du processus de l'enfantement. Et pour certains, parfois, on ne reconnaît plus l'église. Parfois, on me dit, ben, moi, je n'aime pas les églises dans les maisons. Parfois, on dit, ben, moi, je n'aime pas la 16h. Parfois, on dit tellement de choses. Ce n'est pas le problème de le dire. Parce que ça, c'est une réalité, c'est un fait. Mais c'est bien aussi de se poser la question, mais est-ce que Dieu ne bouge pas mon corps? Ou Dieu n'amène pas mon corps à donner naissance à quelque chose de nouveau? Et parfois, je ne suis pas bien dans mon travail. Parfois, je ne suis pas bien dans une relation. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de naître? Tu peux lutter et refuser la naissance, l'enfantement, parce que tu regardes aux signes négatifs de nausées, de crachats et de toutes sortes de choses. Mais à la fin des fins, il y a une naissance si tu te laisses. Alors ne regarde pas à ce qui est peut-être douloureux pour toi. Et j'aimerais vraiment mettre l'emphase rapidement sur trois phases dans le processus de l'enfantement. Parce que si tu veux arriver jusqu'à l'enfantement, tu dois te préparer à traverser le travail, l'expulsion et la délivrance. Rapidement, la phase de travail. C'est là où des contractions prennent place. Et les contractions doivent être de plus en plus régulières pour que l'enfant puisse sortir plus tard. Et cette phase de travail, ça me fait penser au temps parfois de désert comme Moïse. Et Céline Gatté prépare un message là-dessus, dimanche prochain, dans nos églises de maison, on va l'écouter. Moïse dans les déserts, phase de travail. Et c'est la phase où plusieurs sont. Et toi, tu regardes juste les contractions. Mais quand je dis tu regardes les contractions, en fait, tu ne les supportes pas. Et si tu n'as pas la perspective de l'enfantement, c'est une folie que de supporter ça. Moi, j'ai toujours trouvé une folie pour les femmes de recommencer. Quand tu ne sais pas, la première fois, je te dis, on ne mourra pas deux fois. Mais quand tu fais deux, trois, quatre, certains pays, cinq, dix, c'est quoi? Parce que la puissance de l'enfantement couvre les douleurs. Tu ne supporteras jamais les douleurs si tu n'as pas la perspective de l'enfantement. Et je parle à quelqu'un. Tu ne supporteras pas ta saison de travail actuelle si tu ne captes pas que tu es en train de donner naissance à un enfant, que tu es en train de produire, que tu es en train de donner la vie, que tu es en train de changer l'humanité, que tu es en train de te multiplier, que tu es en train de te dupliquer. Dieu est en train de faire quelque chose de surnaturel. Oh oui, il y a la souffrance. Oh oui, il y a la phase de travail. Oh oui, il y a les contractions. Mais ces contractions-là, c'est dans le processus naturel pour que tu puisses donner naissance à quelque chose. Et ce qui est formidable, c'est que quand les contractions se rapprochent, l'enfantement se rapproche. Ne laisse pas les douleurs présentes te faire oublier la naissance de ce que Dieu est en train de mettre en place. Que Dieu nous aide. Je suis parfois tellement peiné de voir que dans la souffrance, on perd la perspective. On perd la perspective. Dieu est en train d'œuvrer. C'est pas Dieu, et j'aimerais vraiment arrêter ça, peut-être pour certains. Dieu ne t'envoie pas la douleur. Quand j'ai repensé quand même à Marie, je me suis dit, c'est quand même hallucinant. Jésus est venu de manière miraculeuse, mais Dieu n'a pas implanté Jésus à 9 mois. Parce qu'il y a un process. Là, Dieu est en train de dire, le Fils de Dieu va se soumettre au processus naturel pour nous enseigner, parce que dans le processus, il y a des choses qui se forment. Et la Bible dit qu'il a même appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Moi, je crois que Jésus a appris même l'obéissance dès le sein maternel. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne lutte pas avec ta saison. Ne bats pas et arrête de culpabiliser. Allez, Dieu, je suis mauvais, je suis méchant. Ouais, j'ai grossi, j'ai pris du poids, je mange. Il y a un enfant. La prochaine fois qu'on va te dire tu as pris du poids, dis il y a un enfant. Hey. Fabien, je t'ai fait perdre des clients. Les contractions travaillent pour votre enfantement. Si nous collaborons, parce que je ne prêche pas l'évangile, je souffre, c'est bon, alléluia, je vais enfanter quelque chose. Si, et on va en parler, si nous laissons travailler par le Saint-Esprit, ok, qu'est-ce que ça soulève en moi? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi ça vient me chercher? Pourquoi ça dure? Pourquoi cette saison est comme ça? Pourquoi ça semble si long? Pourquoi je vois les autres qui semblent avancer et moi, ça stagne? Pourquoi que moi, quand je postule, ça ne prend pas? Pourquoi? Va dans la présence de Dieu. Cherche Jésus, cherche son cœur et comprends ce qui se passe dans ces contractions. Qu'est-ce que Dieu veut que tu enfantes? Qu'est-ce que Dieu veut que tu libères? Où est-ce que Dieu veut t'emmener? La deuxième phase, l'expulsion. Et là, pareil, les contractions aident à pousser le bébé vers le col de l'utérus à sortir. Mais tu dois aussi pousser. Et moi, j'ai marqué, pousse, le travail a commencé. Et pour certains, vous êtes dans cette phase. Il est temps d'agir et de donner naissance à ce que Dieu a conçu en toi. Et là, tellement de chrétiens ne poussent pas. Tellement de chrétiens attendent. Pousse concrètement, c'est persévère. Concrètement, ne lâche rien. Concrètement, pratique, mets quelque chose en place. N'attends pas que la promesse qui est dans le ciel s'accomplisse de manière miraculeuse. Peut-être que vous ne le savez pas, Marie a dû pousser. C'est le Fils de Dieu, il sortira. Même si ce que tu as reçu, c'est un ange qui est venu te voir, tu dois pousser. Dis à la personne à côté de toi, pousse. Et je crois que pour certains, c'est littéralement le temps de pousser. Je crois que pour certains, c'est le temps de pousser. Et la dernière étape, la délivrance. Après la naissance de bébé, la dernière étape, donc c'est la délivrance. Là, pareil, il y a toujours les contractions. Parce que les contractions sont toujours là tout le long du processus. La délivrance a eu lieu. Et qu'est-ce qui se passe? J'aimerais relire Luc 1:31. Oui, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. J'espère que vous avez capté ce que je vais partager par sa grâce. Le problème, c'est que nous ne nommons pas ce qui se passe. Quand Dieu travaille dans notre vie, et c'est terrible parce que dans cette vie, c'est déjà parfois difficile. Je pense qu'on vit quand même des situations difficiles. Mais on est des spécialistes de nommer des situations difficiles. Ça ne marche pas, c'est la loose, c'est le désert, ça fait des années, ma vie ne snack. Mais quand il y a une lueur, quand il y a une intervention, on nomme pas, on ne témoigne pas, on ne dit pas. Et par malheur, si quelqu'un dit « Dieu m'a visité », m'a dit « Tu t'appelles homme fort et puissant », mais c'est orgueilleux. On étouffe l'enfant et j'aimerais dire à quelqu'un « Ne tue pas le bébé qui est en train de sortir ». Et l'église est remplie parfois de morts-nés, pas parce que Dieu n'a pas agi, mais parce qu'on n'a pas rendu la gloire, parce qu'on n'a pas nommé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as enfanté, nomme le miracle, parle du miracle. Et dans ce lieu, je prie qu'on ne prenne jamais pour orgueilleux celui qui glorifie Dieu. Si un ange t'a visité et que tu peux le dire, dis-le, ça existe. Si tu as été guéri, dis-le, ça existe. Si tu as été libéré, dis-le. Ne tue pas ton bébé et ne rends pas ton bébé anonyme. De toute façon, c'est simple, s'il est anonyme, le diable s'en chargera. Dans l'esprit, il y a toujours un nom. Tu nommeras ce que tu enfanteras. Refuse les étiquettes de l'ennemi et donne à ta promesse le nom que Dieu lui a donné. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Mais ça ne s'arrête pas. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et je prie qu'on puisse donner le nom. Et je pense à ça. Et parfois, on en rigole avec certains. L'église a tellement changé de nom. Mais il y a un nom qui ne change pas. On peut changer tellement de noms. Et d'ailleurs, on va changer. Mais ça sera toujours Jésus qu'on va prêcher. Ce nom-là ne change pas. Et je disais, Seigneur, ça aussi, on doit faire attention à ça. Parfois, on cherche tellement le nom qui va faire le buzz. Mais c'est le nom de Jésus qui fait la différence. Et si Jésus a fait une œuvre en toi, nomme cette œuvre. Si c'est guérison, crie guérison. Si c'est restauration, crie restauration. Si Jésus a fait une œuvre, dis-le. Et je crois que Marie a tellement bataillé avec l'incrédulité. Je ne sais pas si elle en parlait autour d'elle. Elle dit, ouais, tu es enceinte, oui. Comment ça? C'est pas Joseph, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ne laisse personne nommer ce que tu as enfanté. C'est à toi de le faire. Et moi, j'ai pris une résolution avec Dieu. Je ne veux pas laisser qui que ce soit nommer ce que Dieu fait en moi. Parce que quand tu nommes pas ce que Dieu fait en toi, tu étouffes et tu tues. Tu es en train de faire quelque chose en toi. Non. Célèbre, loue le Seigneur, bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Même si un début, la Bible dit que de ne pas mépriser les faibles commencements. Et apprenons à nommer les choses, à dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans nos églises, dans les maisons. Et Dieu a fait une œuvre, on célèbre, on nomme. Et c'est comme ça que Dieu va multiplier. Et ça paraît simple, mais parfois, c'est pas multiplié, c'est pas, ça ne grandit pas, parce que tout simplement, nous tuons le bébé dès que ça sort. Il y a le diable, le pasteur Gérard avait prêché ça. Parfois, le diable tue l'œuf. Non, tue la vie dès l'œuf. Dans l'œuf. Mais parfois, c'est nous qui tuons la vie dès qu'elle sort. Parce que nous ne nommons pas, parce que nous ne célébrons pas, parce que nous ne reconnaissons pas, parce que nous ne voyons pas la main de Dieu. Et nous sommes promptes à célébrer ce que l'ennemi fait, mais à ne pas célébrer ce que Dieu fait. Même au sein de la douleur, même s'il y a eu la douleur, quand il y a enfantement, on célèbre. En fait, j'ai jamais vu des parents. Bien sûr, il y a des grossesses compliquées. Mais quand tu vois un enfant, tu vois Simon, maman a souffert. Alors quand on nomme Simon, on ne dit pas, ah, derrière Simon, il y a des douleurs. Hein. Ah, on célèbre la vie. On célèbre la destinée. On célèbre parfois l'inconscience, comment on appelle ça, la naïveté. On célèbre la vie. Mais d'où ça nous vient dans nos églises, de voir un enfant, de voir un nouveau-né, de voir quelqu'un se donne à Christ, et on voit tous les problèmes. Et on dit, Seigneur, emmène-nous des âmes. Seigneur, que des âmes se convertissent. Seigneur, fais des choses. D'où ça vient lorsqu'on voit un jeune peut-être qui démarre, qui prêche, et je prie qu'il y ait des jeunes qui se lèvent, qui prêchent et qui préchouillent. Il dit, oh, et on va le voir, on dit, oh, j'ai pas l'appel. Pourquoi on ne nomme pas ce que Dieu fait? Pourquoi on ne célèbre pas? Pourquoi on n'acclame pas? Pourquoi on n'acclame pas la vie? L'hôpital est rempli de sang. Et dans le, je pense, dans les, jamais été, mais dans le lieu d'enfantement, ça ne doit pas être forcément le lieu le plus agréable. Mais pourtant, c'est là où il y a des destinées. C'est pourtant, c'est là où il y a les plus grands, des sourires. Il y a des pleurs, il y a des sourires qui marquent. Il y a des moments, des instants précieux. Et l'église est un lieu où il y a la vie, où il y a des enfantements. Tu dois te réconcilier avec la douleur pour vivre l'enfantement. Tu dois te réconcilier avec parfois le à peu près pour vivre l'enfantement. Tu dois te réconcilier avec ce qui ne va pas peut-être dans ton sens. Nous tous, en tout cas les parents, on est tous passés là. On a fait, moi j'ai fait des fichiers Excel comme personne. J'ai fait un fichier Excel du jour de l'accouchement de mon premier-né. Telle heure, première contraction, appeler telle personne. Après ça, A, B. Ensuite, je me déplace. Rien. Mais rien ne s'est passé comme ça. Je n'avais pas percuté que les os pouvaient se briser à la maison. Dans mon fichier Excel, il n'y avait pas ça. Mais nous, on a des fichiers Excel dans l'église. On dit, on veut que la vie soit comme ça. Et on dit souvent, on a l'équipe, on libère la vie. Libère la vie. Si quelqu'un doit pleurer, pleure. Si quelqu'un doit se réjouir, se réjouit. Si quelqu'un doit se rouler à terre, on se roule à terre. Si le pasteur Omar doit venir en blanc, je prépare un autre costume plus tard. On bénit Seigneur. Si tu dois venir tout en or, merci Seigneur. Alléluia. Si tu dois prendre un micro en or avec des barres de lion, gloire à Dieu. Du moment qu'il y a l'onction. Non mais je plaisante, mais jusqu'où on veut apprécier la vie, et jusqu'où le refus de la souffrance, de la douleur et de l'inconfort nous empêche de vivre l'enfantement. Tu veux changer, ça va te coûter. On va être honnête. Tu veux que ta relation change avec Dieu, ça va coûter quelque chose. Tu veux que ton mariage change, arrêtons. Nous, on veut que l'enfant sorte, il est tout beau, il est tout mignon, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a même pas de cordon ombilical, il sort, il dit déjà, papa, je t'aime. Oh, maman, je t'aime. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça c'est un film dans nos têtes. Ah, un jour, j'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné, je me lève, bam! Je suis rempli de Saint-Esprit. Avec ma femme, on est comme ça. Avec telle personne dont la relation est un peu tendue, nickel. Tout est transformé parce qu'il y a une déclaration prophétique dimanche. Tu changeras. Alléluia. Ça y est, c'est fait. L'enfant est sorti. C'est faux. J'aimerais te dire, ça c'est un mensonge diabolique. Et tout à l'heure, quand on parlait avec ces personnes qui sont faites baptiser, on leur a dit, la vie chrétienne, c'est compliqué. Mais avec Jésus, on peut tout traverser. Ça, c'est l'évangile. Jésus n'a jamais dit, hein, crois en Jésus et tu n'auras plus de problème. Ok? Mais j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu veux enfanter? Un cœur nouveau. Tu veux enfanter peut-être ta promesse. On va faire une prière. J'avais noté cette prière parce que je pense vraiment que ça sera projeté à l'écran. Répète après moi. Père, je crois de tout mon cœur que ce que tu as conçu en moi, personne ne peut l'avorter. Que l'ennemi ne me fera pas avorter. Que mon enfant ne sera pas un mort-né. Qu'aucune fausse couche spirituelle ne me touchera. Que je ne resterai pas stérile. Je porterai du fruit en abondance. Que ma saison de gestation sera protégée et bénie. Que tu me donnes la force nécessaire pour endurer chaque contraction spirituelle. Que tes promesses dans ma vie ne seront pas seulement conçues, mais aussi enfantées. Que je donnerai le nom divin à ce que j'enfante. Que ma promesse ne sera pas retardée. J'enfanterai au moment de Dieu. J'enfanterai au moment de Dieu. J'enfanterai au moment de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ?